Merci beaucoup. On poursuit notre étude du livre de Jacques, l'épître de Jacques. On est déjà arrivé au chapitre 5. Et aujourd'hui, on voit un sujet. Eh bien voilà, je crois que j'ai toutes mes notes ici. On voit un sujet de façon très pratique aujourd'hui. Gérer l'argent. Alors, c'est un sujet un peu sensible. Les évangéliques ne sont pas non plus toujours parfaitement alignés, si je peux dire, sur cette question. Et donc, on veut l'aborder avec sagesse, avec aussi crainte. Regardez ce que nous dit Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Il n'existe probablement pas de sujet plus personnel et plus sensible que notre argent. En fait, il est tentant d'éviter d'aborder le sujet, parce qu'il risque de nous mettre un peu mal à l'aise. Toutefois, si nous voulons être des disciples de Christ pleinement consacrés à lui, nous devons soumettre ce domaine de notre vie au regard et à la volonté de Dieu. Jacques nous parle sans détour de la manière dont nous devons gérer notre argent. Mais à qui s'adressent ces paroles de Jacques? Vous avez noté comme moi que les paroles sont tellement virulentes. Pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Est-ce vraiment à des chrétiens qu'il s'adresse? Le verset 1 dit « À vous maintenant, riches ». Il avait utilisé cette même expression au chapitre 4, verset 13. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, etc. » Et donc, on a l'impression qu'il continue à s'adresser à son auditoire, au lecteur de sa lettre. Il adresse sa lettre à des croyants, c'est ça son but. Il l'a dit au début de l'épître, il écrit à des croyants ou à des personnes qui pensent être croyants, qui prétendent l'être. Pourquoi d'ailleurs s'adresserait-il à des gens qui ne liront pas sa lettre? Et puis il dit « riche ». Riche. C'est quoi riche? Il y a un ancien président qui s'était lancé sur un chiffre. Ça n'a pas plu à tout le monde. On pourrait assez facilement penser « riche, c'est pas nous ». « Riche, c'est... comment il s'appelle ? Bernard Arnault. Première fortune du monde. C'est un Français. Peut-être que les Français sont pas mal lotis quand même. Ou Elon Musk, Jeff Bezos. Ou plutôt, peut-être certains s'en fait rêver, Kylian Mbappé. Et on se dit, ah, ça c'est des riches. Moi, si j'étais riche, je ferais ceci, je ferais cela. Je donnerais aux pauvres, en tout cas. Ce serait complètement ignorer comment fonctionnent nos cœurs. Encore une fois, dans les propos de Jacques, on trouve une certaine tension. À la fois, il nous dit, si vous êtes véritablement croyant, vous ne pouvez pas gérer vos finances de cette manière. D'un autre côté, il dit, attention mes frères, à ne pas gérer votre argent de cette manière. À la fois, il veut que nous vérifions que nous sommes véritablement des chrétiens, et à la fois, il nous montre ce que devrait être notre vie en tant que chrétien. Au fond, c'est, il nous demande de passer le test de l'argent, parce que notre attitude envers l'argent révèle clairement l'état de notre cœur. Et je vous propose de voir deux choses ce matin. On va voir le crime des riches. J'ai gardé un peu le vocabulaire de Jacques. Et puis la guérison des riches. Dans les versets 2 à 6, on voit que Jacques condamne ceux qui professent adorer Dieu, mais qui en réalité adorent l'argent. C'est cela les riches, selon Jacques. Et là, on comprend que ce n'est pas une affaire de quantité, de zéro sur votre... qui suivent, vous m'avez compris, quoi, de millions ou de milliards sur votre compte. Ce n'est pas cela. Être riche, c'est comment notre cœur gère cette richesse. Comment est-ce que l'on aime, à quel point on va y mettre notre confiance, notre identité, notre sécurité. C'est cela, être riche, selon Jacques. Et là, on comprend qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent sur son compte pour l'être, que chacun de nous, on peut être ces riches dont Jacques parle. Le péché n'est pas la possession de richesses. Vous m'avez bien compris, je ne suis pas en train de dénoncer Bernard Arnault ou Elon Musk et Jeff Bezos. Non, je ne connais pas ces gens, en fait. Je ne sais pas comment, ce qu'ils font de leur fortune et ça ne me regarde pas, ça les regarde eux. Mais je veux simplement dire que parfois, notre cœur s'attache à tellement peu dans nos finances. Il détermine ce que l'on est prêt, l'amour des richesses détermine ce que l'on est prêt à faire pour les posséder. L'amour de la richesse détermine la manière dont on va les utiliser. Et c'est cela le crime des riches. Ici, il est dit... qu'il affirme avec une vigueur qu'on trouve nulle part dans son épître, que pour que les richesses soient une source de bénédiction et non de condamnation, il ne faut pas qu'on les amasse inutilement, qu'on les obtienne injustement, qu'on les utilise égoïstement ou qu'on les acquiert impitoyablement. Regardons tout d'abord, cette accumulation malsaine dans les versets 2 et 3. Il dit « Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Vous avez amassé. Le reproche ici, c'est d'avoir amassé. Et amasser, c'est différent que d'épargner. Il y a une certaine sagesse à mettre de côté. Et les proverbes parlent abondamment de cette sagesse. Je voudrais vous lire en Proverbe 21, le verset 20. Il nous est dit que de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Il y a de la sagesse à mettre de côté, à épargner, à prévoir l'avenir. Mais il y a aussi une manière insensée d'amasser à l'excès. Et le Proverbe 11, verset 20, 24 et 25 disent ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et la bascule se fait lorsque notre sécurité est dans ce que l'on a amassé plus qu'en Dieu. On voit qu'ils ont amassé démesurément au travers du verset 2. « Vos richesses sont pourries. » Ils ont accumulé tellement dans leur frigo, ils n'ont pas pu tout manger. Alors, la nourriture est pourrie dans leur frigo. Vos vêtements sont rongés par les teignes. Il dit, les mites n'attaquent que les vêtements que l'on ne porte pas. Si nos placards sont pleins de vêtements, il est bien possible que les mites en fassent leur festin. Et les pièces qui circulent ne rouillent pas. Il dit, votre or et votre argent sont rouillés. Il faut qu'elles soient stockées longtemps pour qu'elles s'oxydent. Au lieu de donner à ceux qui ont faim, à ceux qui sont nus, à ceux qui ont besoin, leurs richesses se sont corrompues. Parce que l'on ne peut pas manger plus que ne peut contenir notre estomac. On ne peut pas porter plus d'une chaussure, une paire de chaussures à la fois. On ne peut pas dormir dans deux lits en même temps. Cette rouille, cette pourriture et les ravages des mites s'élèvera en témoignage contre vous, dit-il. Voyez-vous tout le bien que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait. L'argent est un serviteur. Vos maisons, nos cuisines, nos voitures, nos comptes en banque doivent combler des besoins. Et l'accusation de Jacques est renforcée ici parce qu'il dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers temps ». On peut être riche dans ce monde et pauvre dans le monde à venir. Et inversement, on peut être pauvre ici-bas et très riche dans le royaume à venir. Seulement dans le monde à venir, ce sera pour longtemps. Et ça, ça devrait nous faire réfléchir. Le retour de Christ rendra certaines personnes riches et d'autres pauvres, conformément à l'état spirituel de leur cœur. Ce que nous gardons, nous le perdrons, nous le laisserons. Ce que nous donnons, à Dieu notamment, nous le retrouverons avec des intérêts. La deuxième accusation porte sur l'acquisition malhonnête. On voit ça dans le verset 4. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de l'Éternel des armées. » La plupart du temps, les ouvriers étaient payés à la journée. Ne pas leur donner le salaire à la fin de leur journée de travail, c'était les priver, eux et leur famille, du repas dont ils avaient besoin pour vivre. On peut imaginer les cris des enfants ou des estomacs qui crient famine. Mal payer ces ouvriers ou tarder à les payer ou ne pas les payer est criminel selon Jacques. Les hommes riches dont parle Jacques avaient embauché des ouvriers en leur promettant un salaire et ne leur ont pas donné ce salaire. Et il semble qu'ils ne recevront jamais ce salaire. Les richesses injustement acquises, en affaiblissant encore plus les vulnérables, parce que les vulnérables n'ont pas de marge de négociation, provoquent la colère de Dieu, qui ne manquera pas d'entrer en jugement avec eux. Leur cri est parvenu jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Il y a une manière abusive de s'enrichir. Et si vous êtes patron, ça devrait nous faire penser à payer correctement nos ouvriers. La troisième accusation porte sur la jouissance égoïste. Verset 5, il dit « Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. » Il y a une manière de jouir exagérément de ce que peut nous procurer l'argent. Il y a, reconnaissons-le, dans nos cœurs, une incapacité à se satisfaire. à se satisfaire d'un certain niveau de vie. Il y a toujours plus beau, plus grand, plus luxueux, plus cher, plus récent, plus performant. Et pour préserver nos cœurs de cette corruption, il ne faut pas jouir égoïstement de nos richesses. Il y a une manière d'être une bénédiction pour d'autres. Il y a une manière de partager, une manière responsable d'arroser les autres. Le luxe n'est légitime que s'il est accompagné de luxueuse libéralité, d'une bonté pleine de délicatesse et d'égard. La quatrième accusation porte sur le pouvoir impitoyable de l'argent. Au verset 6, il dit « Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté ». J'ai lu en préparant ce message, dans une bande dessinée, il y avait ce personnage évangélique qui disait « Mais quelle est la règle d'or ?» Vous connaissez la règle d'or, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Et son compagnon doit répondre « Celui qui a l'or décide des règles ». Et je trouvais ça intéressant. Je trouve qu'il y a un peu une vérité là-dedans, malheureusement. Ce sont les riches qui peuvent verser des pots de vin. Ce sont les riches qui se paient des meilleurs avocats et qui parfois achètent le juge. On peut aimer l'argent pour le pouvoir qu'il offre sur les autres. On peut donner avec cette perspective de pouvoir manipuler la personne. On peut rendre la personne dépendante, l'obliger. On peut acheter leur silence. Les présents, dit la Bible, corrompent le cœur. Voyons, après avoir vu le crime des riches, voyons la guérison des riches. Verset 1 et puis au verset 6. Même si la condamnation est vigoureuse, il y a de l'espoir pour les riches. Regardez verset 1, il dit « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » En fait, la repentance, c'est de changer, c'est de réaliser qu'on a besoin d'être transformé, d'être changé. Il y a un moment pour pleurer. Nous sommes aveugles. Naturellement, nous sommes aveugles sur notre cupidité. La cupidité et l'avarice sont extrêmement difficiles à déceler dans nos propres cœurs. Tim Keller, qui est souvent cité dans cette église, écrit « En tant que pasteur, les gens m'ont déjà avoué avoir commis presque tous les péchés. Presque. » Mais je n'arrive pas à me souvenir de quelqu'un qui soit venu me dire « Je dépense trop d'argent pour moi-même. Je crois que ma cupidité fait du mal à ma famille, à mon âme et aux gens qui m'entourent. » La cupidité se cache aux yeux de ses victimes. Le dieu argent aveugle nos cœurs. Ça fait partie de son modus operandi. Fin de citation. Donc si vous pensez ne pas avoir de difficultés avec la gestion de vos finances. Craignez. Craignez. Craignez que vous soyez aveugle. Si par contre vous dites, y a quelque chose qui fait écho dans mon cœur ici. Pleurez. Pleurez et gémissez. Nous ne disons pas que nous sommes cupides. Nous disons que nous sommes économes, que nous sommes prévoyants. Nous pensons à l'avenir de nos enfants, comme la fourmi. Nous ne disons pas que nous sommes égoïstes et dépensiers. Nous disons que nous aimons la vie. L'argent que nous possédons est fait pour être dépensé, comme la cigale. Nous avons un problème avec l'argent, que nous y cherchions notre sécurité ou que nous y cherchions la jouissance qu'il peut nous apporter. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Jacques dit, son frère Jacques dit, pleurez et gémissez. Jacques nous appelle à la repentance, à réaliser que nous serons jugés sur la manière de les acquérir et sur l'emploi de nos richesses. Il vaut mieux pleurer maintenant en se repentant plutôt que dans l'éternité. Et puis, l'autre espoir de guérison se trouve dans l'Évangile. Le verset 1 nous appelle à la repentance, l'examen de nos cœurs sur notre gestion financière. Le verset 6 est assez difficile. En fait, c'est la fin du réquisitoire de Jacques, commencé au verset 2, et réquisitoire virulent qui termine par « Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté ». Et Tim Keller relève deux points sur ce verset. Tout d'abord, il dit que « Vous avez condamné, tué le juste ». Il ne dit pas « Vous avez tué, condamné et tué le pauvre ou les pauvres ». Il dit « Vous avez condamné et tué le juste ». Et puis, il dit, Jacques dit « Qu'il ne vous a pas résisté ». Et le commentaire de Keller, il dit « Et non pas qu'il n'a pas pu vous résister ». C'est-à-dire que dans l'absence de résistance, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le pouvoir de résister, c'est qu'il n'a pas voulu résister. Et on reconnaît bien ici la mélodie de l'Évangile. Vous voyez à qui Jacques fait référence. Le juste, le seul, c'est Christ, qui n'a pas résisté, mais qui s'est offert volontairement. Jacques est en train de dire que vous avez au fond oublié qui a été vendu pour 30 pièces d'argent. Celui qui est mort volontairement pour vous. En 2 Corinthiens 8, verset 9, Paul dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Si vous gérez votre argent de la manière criminelle, égoïste, injuste, abusive, cupide, c'est parce que vous avez oublié ou c'est parce que vous n'avez jamais connu comment Christ vous a aimé en laissant toute sa richesse pour donner jusqu'à sa vie même, sa vie parfaite, pour que vous soyez, vous qui étiez misérable, que vous puissiez être riche de sa gloire, de sa bonté, et cela pour l'éternité. Et nous sommes fondamentalement appelés à ressembler à Jésus-Christ, à marcher dans ses voies, à renoncer également à nos privilèges pour secourir et aimer nos semblables. Et l'Évangile a pas mal d'implications. La première implication que j'aimerais regarder, c'est que l'Évangile nous pousse à la confiance en Dieu et non dans l'argent. Le piège des richesses que l'on voit bien dans nos propres cœurs, c'est d'inspirer une sécurité trompeuse. C'est pour cela que Jacques emploie un ton vigoureux. Il cherche au fond à ébranler notre sécurité dans l'argent. Cette dangereuse confiance de rappeler la vanité, l'impuissance de nos richesses. Dans le proverbe 18, il est dit au verset 11, « La fortune est pour le riche une ville forte, dans son imagination, c'est une haute muraille. Dans son imagination. Mais ça vaut rien. Il est agréable de pouvoir s'offrir certaines choses avec son argent, pourvu qu'on possède aussi ce que l'argent ne peut pas nous procurer. De quelle utilité peut être une maison splendide si elle n'est pas aussi un foyer ? Ou une bague ornée de diamants ? Sans amour. Jacques ne condamne pas les riches ou la richesse. Il condamne le mauvais usage des richesses. Usage comme d'une arme et non comme d'un outil pour construire. Notre David, que je lisais tout à l'heure, dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Êtes-vous convaincu de cela? Ou pensez-vous au fond « Oh, quand même, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, c'est mon sens des affaires, c'est mon travail, c'est mon application qui m'a permis de posséder ce que j'ai. » Le roi David, il a dit ces paroles et il était, lui, extrêmement riche. Mais il ne considérait pas ses richesses comme pleinement les siennes. Dans Deutéronome 24, il y a pas mal d'enseignements sur cette question. Il dit, Moïse dit cela, « Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve. » C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, une partie de la moisson appartient à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Comme si Dieu avait fait pousser cela en pensant à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Et donc une manière très pratique de vivre cette confiance en Dieu, c'est d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour tout ce que nous avons. Pensez à cela. Peut-être dans quelques jours, vous allez recevoir votre salaire, votre paye, ça va tomber. Pensez, merci Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui pourvois si merveilleusement à mes besoins. Pas mon intelligence, pas ma force de caractère, pas ma puissance, pas ma... Toi, parce que c'est toi qui m'as donné tout cela. Et si j'étais né dans un quartier pourri de Toulouse, si je n'avais pas eu les parents que j'ai, si je n'avais pas eu tel et tel professeur qui m'ont poussé, alors jamais j'aurais fait ces études, j'aurais fait comme les grands frères, j'aurais vendu de la drogue, fini en prison ou pris une balle. Et on ne dit jamais que c'est la faute des enfants. Jamais. On dit que c'est la faute de la société, c'est la faute des parents, c'est la faute des riches, c'est la faute de l'école, l'éducation nationale, c'est la faute de... Mais on ne dit jamais que c'est la faute des enfants. Parce qu'on sait très bien que si on est né dans tel ou tel quartier, ou dans telle ou telle ville, ou dans tel ou tel pays, on a beaucoup plus de chances d'être riche que dans d'autres quartiers. Donc, exprimons toute notre reconnaissance. Et puis, l'Évangile produit l'honnêteté dans nos cœurs. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Cet amour pousse au vol, à la dureté de cœur, à mal payer, à la fraude, à faire pression. Mais ça, c'est ce que nous étions avant de connaître Christ. Mais en regardant à Christ crucifié, nous voyons que nous possédons tout pleinement en lui. Les justes dans la Bible sont prêts à se désavantager au profit de la société. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Par contre, les méchants sont prêts à désavantager la société à leur profit. C'est l'argent, c'est l'amour de Christ pour nous qui fait pâlir notre amour pour l'argent. Un troisième fruit de l'Évangile, c'est le contentement. John Wesley est très connu pour cela. John Wesley, révivaliste en Angleterre, il a eu une manière de ne pas augmenter son niveau de vie avec l'augmentation de ses revenus. L'engagement de John Wesley en faveur d'un mode de vie modeste a été inébranlable tout au long de sa vie. Bien qu'il ait gagné des sommes importantes pendant sa vie, grâce à ses publications et à d'autres sources, il a choisi de vivre simplement et de donner généreusement. L'un des exemples les plus remarquables de sa frugalité et de sa générosité s'est produit lorsque ses revenus ont augmenté. Au début, il raconte qu'il percevait une trentaine de livres par an. Et donc, il vivait avec 27 et il donnait 3. Mais ses revenus ont commencé à augmenter. Jusqu'à 1400 livres par an. Il a continué à vivre avec 27 et a donné tout le reste. Ses besoins à lui n'avaient pas changé. Et c'est un modèle de contentement, ça me fait réfléchir. Ça témoigne d'une profonde conviction dans les principes de l'intendance chrétienne, de son engagement à vivre sa foi d'une manière pratique. Peut-être on devrait réfléchir. Est-ce qu'il faut toujours courir en avant? Ou est-ce qu'il y a peut-être un meilleur usage à faire de nos finances? Le troisième ou quatrième fruit que porte l'Évangile dans nos vies, c'est la générosité. Si nous avons compris que les richesses nous sont confiées pour que nous les utilisions pour Dieu comme ses gestionnaires ou comme ses administrateurs, alors fatalement, nous allons être généreux parce que notre Dieu est généreux au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Cette générosité nous guérit de la cupidité. Lorsque je donne généreusement et avec joie, qu'est-ce que je dis ? Je dis, Christ vaut mieux que tout cet argent. Christ est meilleur. Il vaut mieux que tout ce que je pourrais faire et avoir avec cet argent. Et c'est vrai, et c'est ce qu'il attend de nous, de notre don. Si je donne parce que Dieu me commande de donner, alors, je suis obéissant. Ça célèbre mon obéissance. Mais ma générosité, avec joie, célèbre Dieu. Ma générosité me rappelle que la valeur de ma vie ne dépend pas de mes biens. Sinon, j'amasserais. La valeur de ma vie a été établie une fois pour toutes par Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix pour moi. C'est lui qui a payé la rançon. En étant généreux, je rappelle à mon cœur que sa valeur est en Christ. En étant généreux dans l'œuvre du Seigneur, je rappelle aussi à mon cœur que je suis citoyen des cieux, que le ciel est ma patrie. Un jour, j'irai là-bas. Tout ce qui est dans ce monde est passager et ce qui est dans le ciel est éternel. Jésus dit « amassez », il emploie le même mot, « amassez-vous des trésors dans le ciel ». Ce n'est pas seulement mon argent alors que j'oriente vers le ciel, mais c'est toute ma vie. Les individus sages comprennent que tout leur argent appartient à Dieu. Et qu'ils doivent l'utiliser de manière à montrer que leur trésor, leur confort, leur joie, leur sécurité se trouvent en Dieu et non en l'argent. Et si vous discernez dans votre cœur que l'argent est une idole, ou pourrait le devenir, sachez une chose, on ne peut pas arracher cette idole. On ne peut que la remplacer. Elle doit être supplantée par celui qui, quoique riche, est devenu pauvre pour que nous devenions réellement riches. Paul termine sa première lettre à Timothée avec ses paroles, chapitre 6, verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alors, prêchez-vous l'Évangile, chaque jour s'il le faut, plusieurs fois par jour, quand vous devez faire des achats, ou « Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as racheté, ma valeur, c'est toi qui me l'as donné. » Et répondez à cet Évangile avec foi. Soyez reconnaissants envers Dieu qui vous donne toutes choses et combattez l'amour de l'argent par la générosité. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, elle est vive dans la bouche de Jacques pour démasquer nos cœurs idolâtres, cupides. Seigneur, pardon. Pardon pour l'usage négligent des richesses que tu nous as confiées. Pardon pour l'usage égoïste. Pardon pour le manque de reconnaissance. Pardon pour le manque de contentement de nos cœurs. Pardon d'avoir cherché notre sécurité là-dedans, ou notre identité. Pardon. Seigneur, aide-nous, par la puissance de ton Évangile, par l'action de ton Saint-Esprit au-dedans de nos cœurs, à nous laisser transformer, à nous laisser changer, à ressembler de jour en jour davantage à notre Seigneur, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis pour l'éternité. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour l'amour que tu nous as manifesté en Christ. Et nous te prions pour que cet amour dont nous avons été les objets et dont nous sommes les objets puisse transformer nos cœurs, nos vies et avoir un impact sur la gestion de notre argent. Viens à notre aide dans ce domaine par Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.